Bonjour Damien, 7 jours d'actu. Église et Sida, nouvelle polémique. Le deuxième marathon à Montauban et les maths dans la patrie de l'ail. Voici les quelques événements sur lesquels nous reviendrons. Dimanche 29 mars avait lieu la deuxième édition du marathon à Montauban. Cette année, c'est 2000 participants qui ont couru à travers les rues et avenues de la ville. Plus que l'année dernière, c'est ce que nous précise le premier adjoint à la mairie, Pierre-Antoine Lévy, qui nous rappelle aussi l'histoire de ce marathon et les performances. On l'écoute.
C'est un très grand succès car sur la première édition nous avions 1100 concurrents, toutes compétitions confondues, et cette année c'est quasiment 2000 concurrents, donc vous voyez pratiquement le double, et un temps magnifique pour accueillir les sportifs de tous âges et surtout de tous niveaux. Le marathon a circulé un peu sur le long de toutes les coulées vertes, le long des berges du Tarn, et après un parcours pour finale pour traverser la ville, pour arriver à Esplanade des Fontaines où nous avons donné le départ également. Donc un parcours qui a été, semble-t-il, très apprécié de la part des concurrents. Un peu difficile, a priori, mais très apprécié car il était très sympa.
Quel est le type de participants que vous avez pour le marathon, à peu près ?
Alors, on a, je peux vous dire qu'on a tout niveau régionaux. On a d'excellents concurrents qui se sont déjà distingués dans de nombreuses compétitions régionales. Le concurrent qui a gagné le 10 km, par exemple, Arnaud Bessède, avait déjà gagné le semi-marathon l'année dernière. 31 minutes pour faire 10 km, vous voyez le niveau du compétiteur. Mais sinon, c'est pratiquement tous les niveaux. Car d'abord, sur le marathon, il y avait à peu près 300 candidats inscrits, 300 sportifs. On ne peut pas faire plusieurs marathons dans l'année, on peut en faire deux. Et il faut vraiment se préparer. Alors, on ne peut pas non plus se lancer comme ça.
Une sacrée organisation avec le concours du régiment parachutiste de Montauban. Autour de l'esplanade de Fontaines, d'où avait été donné le départ, c'est un marathon de 42 km, un semi-marathon de 21 km, une piste de 10 km pour les jeunes et une marche patrimoine et nature dans les rues de la ville. Un beau programme auquel les nombreux participants ont apprécié l'offre. Muriel, quant à elle, a couru le 10 km. Elle s'est entraînée dur comme fer.
Beau parcours. Enfin, moi, j'ai fait que les 10 km, mais très, très bien. Moi, je cours 2 à 3 fois par semaine. Et là, ces derniers temps, je m'y tenais à 3 par semaine. Ouais, de manière à ne pas avoir de crampes, être bien préparée pour assurer bien les 10 km.
Les femmes courent et c'est tant mieux. Ce sont bien sûr et toujours malheureusement pour mesdames les hommes qui sont les plus performants, puisque deux marathoniens que nous avons rencontrés à la fin de leur course, très entraînés et aussi très essoufflés, qui ont déjà fait, il faut le savoir, le marathon de Paris, se sont donc engagés pour la deuxième fois à travers les rues de Montauban, un parcours qui les a plutôt enchantés. On écoute ces deux marathoniens.
Eh bien, on a eu de la chance avec le temps et... Mais c'est vrai qu'il est un peu casse-pâte, quoi, un peu dénivelé, mais enfin, c'était bien de le faire, de faire un marathon à la maison, quoi. Et on s'est préparé, mon collègue Didier, là, de la Creuse.
Pendant 12 semaines, à partir d'un programme qu'on a pris sur une revue, tout simplement, voilà. Mais la préparation est très dure.
Ben, c'est chouette parce que ça passe, moi j'aime bien, ça passe bien au centre, enfin, c'est sympa, quoi. Enfin, puis, encore une fois, on est à la maison, donc il peut y avoir la famille et tout ça, donc c'est chouette, ouais.
Moi, c'est pareil, je l'ai trouvé agréable. On longe le Tarn, donc c'est très bien. On va au Ramérou, on passe un peu en ville. Bon, il est très dur quand même à l'arrivée, là. C'est la ville qui est dure, hein. À la fin, on zigzague. Bon, mais il faut bien aussi que les gens nous voient, mais bon, c'est assez dur à la fin.
Une deuxième édition donc qui a vu donc de nombreux participants, 2000 je vous le disais tout à l'heure, et deux concurrents ont eu le privilège à la fin de la journée de partir à Djerba en Tunisie. C'était un cadeau offert par la municipalité. On avait déjà eu la polémique avec le pape Benoît XVI lors de sa visite en Afrique, qui déclarait que le préservatif n'avait aucun effet contre le sida. Cette semaine, c'est en France, c'est un évêque, l'évêque d'Orléans, qui a lui aussi lancé une nouvelle polémique, qui a fait bondir les chercheurs. Selon lui, pareil, effectivement, le préservatif n'empêcherait pas le virus du sida de se propager de corps à corps. Une chose scandaleuse selon certains scientifiques. On écoute tout d'abord l'évêque d'Orléans.
On met maintenant sur les boîtes de cigarettes « danger ». On devrait mettre sur les boîtes de préservatifs « fiabilité incomplète ». La taille du virus du sida est infiniment plus fine que celle d'un spermatozoïde. La preuve est faite que le préservatif n'est pas une garantie à 100% contre le sida. Tous les scientifiques le savent.
Des chercheurs, comme je vous disais tout à l'heure, très choqués et scandalisés par les propos tenus par l'évêque, qu'on écoute tout de suite.
Pardon, mais scientifiquement, c'est tout à fait grotesque. Le virus ne passe pas du latex, le virus ne passe même pas notre peau non abrasée, le virus ne pénètre pas à travers du caoutchouc, c'est très clair. Que les monseigneurs s'occupent d'autres thèmes.
Je suis consterné par ces propos. Consterné à la fois en tant que médecin, que chercheur, et je l'ai dit publiquement en tant que médecin catholique également. Chacun son rôle. L'Église a son rôle à jouer en termes de vision, de morale, elle a à dire son message. Mais qu'elle laisse aux scientifiques, qu'elle laisse aux médecins, eh bien, la responsabilité de leurs paroles.
C'est assez atypique comme festivité, mais oui, à Escatalens, près de Montech, le week-end dernier, l'association Apogée organisait la fête du cochon. Alors, le cochon, ça vous paraît bien étrange comme idée, pourtant, on peut faire plein de choses avec le cochon. C'est même l'ancien boucher, un ancien boucher, qui nous en dit un peu plus sur la recette du cochon, il s'appelle Lilian, écoutez-le.
Le cochon, c'est un petit mot, mais qui est derrière, il y a beaucoup de travail derrière. Un cochon, c'est pas un cochon. Il faut faire le travailler.
Bon, qu'est-ce qui est bon dans le cochon déjà ?
Tout. On jette rien. Même les pieds, on mange.
Bon, comment on prépare un cochon ?
Ah, il faut d'abord désosser la carcasse, la couper, désosser, couper en morceaux. Et puis après, il y a tout un travail de salaison, de préparation. On transforme le produit et pour arriver à faire du boudin, du pâté, de la saucisse. Et voilà.
La fête du cochon, une expérience inoubliable pour cette dame qui est venue profiter de ce repas qui avait lieu dans la salle des fêtes d'Escatalens. On l'écoute. Alors dites-moi pourquoi, madame, vous êtes venue ici pour la fête du cochon à Escatalens.
Parce que c'est super chouette, la fête du cochon, bon, ça doit être c'est une fête du pays, donc on y va.
Qu'est-ce que vous aimez dans le cochon ?
Tout sauf la queue et les oreilles.
Cette idée donc à mettre à l'initiative du restaurateur, de l'unique restaurateur d'Escatalens, il s'appelle Jean-Claude Salat. C'est aussi lui qui est le président de cette association Apogée qui a été créée il y a 3 mois. On écoute Jean-Claude Salat dont le but de cette association est de mettre en valeur le travail de ces nombreux agriculteurs et éleveurs du département. Pourquoi une fête du cochon ?
Mais la fête du cochon, pourquoi ? Parce que d'abord, nous voulons promouvoir le monde rural. Nous voulons promouvoir ces gens qui sont issus de la terre, qui ont un labeur très dur et qui ne sont pas toujours satisfaits. Et on voudrait remettre en valeur cette tradition qui est la leur, du bien manger et du bien vivre. Nous avons découpé à partir de 8 heures. Nous avons fait le boudin, le pâté, la saucisse de Coine, et cette transformation du cochon était réservée uniquement aux gens de l'Apogée, parce que nous n'avons pas le droit de faire du commerce, et donc ce sont les adhérents, si vous voulez, qui ont bénéficié du prix de revient du produit transformé. Nous avons fondé cette association il y a 3 mois avec 2 autres copains issus du monde rural, et nous avons lancé 4 fêtes par an, la fête du cochon en fin d'hiver, la fête de la cerise avec des foie gras et canard gras au mois de mai, fin mai, la fête des battages à l'ancienne qui va se tenir au mois d'août, et la fête des vendanges avec les canard gras et les foie gras.
Qui n'a jamais entendu parler du théorème de Fermat ? Pierre de Fermat, le grand mathématicien, eh ben oui, il est né dans le Tarn-et-Garonne, et plus précisément à Beaumont-de-Lomagne. Ce dimanche 29 mars, c'était une 6e édition de la fête à Fermat, donc consacrée, vous l'avez compris, aux mathématiques, dans la halle, dans la maison Fermat. La patrie de l'ail blanc est aussi la patrie de ce grand mathématicien. Nous avons fait un peu le tour des stands, des jeux, chasse au trésor, labyrinthe, exposition, spectacle, conférence. Qui est Pierre de Fermat, que le président de l'association Fermat Lomagne pour nous en dire un petit peu plus. On écoute Jean Hémès pour la petite biographie de Pierre de Fermat.
Alors Fermat est un immense personnage, c'est un magistrat, un juriste au Parlement de Toulouse, mais qui n'a pas fait que ce métier, qui était surtout passionné par les mathématiques. Donc, qui a laissé une œuvre très importante, non pas par ses écrits, parce qu'il a écrit assez peu, mais par une correspondance qu'on a retrouvée peu à peu, qu'on a reconstituée, Il est à l'origine de la fondation du calcul des probabilités. C'est lui qui est l'inventeur du calcul différentiel. C'est lui qui a fait son œuvre majeure concerne la théorie des nombres. On peut dire que à la suite de ce qu'avaient fait les anciens, c'est-à-dire l'Antiquité et ce qui s'était fait dans la période arabe, Fermat apparaît comme le refondateur finalement de l'arithmétique, comme on dirait, de la théorie des nombres, comme on dit aujourd'hui, quoi. C'est véritablement à cet égard un précurseur, quelqu'un qui renouvelle et qui oriente la réflexion des mathématiciens qui vont venir après lui sur des problèmes nouveaux, quoi. Voilà.
Des conférences et aussi des jeux. Dominique Souder, qui est prof de mathématiques à La Rochelle, a lui trouvé une idée intéressante avec les mathématiques puisqu'il fait de la magie mathématique. Dominique Souder qui nous explique cette magie mathématique. On l'écoute.
Ce sont des tours qui ne nécessitent pas de dextérité de prestidigitateur. C'est des tours qui s'expliquent avec un raisonnement mathématique ou avec de l'organisation logique. Ces tours peuvent se faire avec des papiers crayons, ça peut être des découpages astucieux, ça peut être des tours avec des objets quotidiens, un ruban de couturière, des pièces de monnaie, ça peut être des tours avec des objets fabriqués au préalable avec une réflexion mathématique, et puis bien sûr tous les tours de cartes avec tous les jeux de 32 ou de 52 cartes ou même moins de 32 cartes. On peut faire avec des tas et des tas de supports variés, des tours utilisant les maths.
Fermat donc qui attise les curiosités puisque les élèves du lycée Molly de la Villa près de Barcelone sont venus exposer et présenter leurs œuvres sous la halle de Beaumont lors de cette fête à Fermat. Un duo aussi d'Espagnols a présenté la veille un film qui s'intitule La cellule de Fermat. Nous avons rencontré les deux réalisateurs, Luis Piedrahita et Rodrigo Sopeña. Ils ont fait tout un scénario autour de l'histoire du mathématicien et de l'astuce des mathématiques. On les écoute.
Bueno, lo primero es que nos encanta
j'aime bien, nous aimons bien voir tout un village basé sur les mathématiques ludiques, tout un village qui fait honneur aux mathématiques.
Cosas de relacionadas con las matemáticas.
Notre film, c'est comme un jeu de plus parce qu'il est plein d'énigmes. Si les personnages ne résoudent pas ces énigmes-là, ils vont mourir. Nous pensons que les énigmes que nous posons dans le film étaient relativement faciles à résoudre, tout ça, mais on est content de voir. Hier, on a constaté que même les mathématiciens présents qui ont vu notre film, ils ont dit qu'ils n'auraient pas survécu. S'ils avaient eu à résoudre ces énigmes.
Et enfin, donc, la nouveauté cette année pour cette sixième édition, c'est une chasse au trésor permanente qui a été obtenue et qui est donc officialisée dans les rues de Beaumont-de-Lomagne. Le président de l'association qui a conclu donc cette visite, Jean Hémès, nous explique cette nouvelle chasse au trésor qui nous fera découvrir les monuments de la ville et pour l'heureux élu, le fameux trésor de Pierre de Fermat. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chasse au théorème, cette nouveauté, une chasse au trésor à Beaumont ?
Alors, c'est un jeu de piste dans la Bastide, avec 11 petits défis, qui est fait pour les jeunes, de 9 ans à 15-16 ans, enfin, mais ça peut marcher aussi pour les grands, hein. Autrement dit, on peut avoir 83 ans et en profiter. Et qui consiste à résoudre des petits défis de mathématiques, mais très simples, qui vont permettre de trouver un message et de trouver le code d'un cadenas. Et le lieu, le message permettra de trouver où se trouve le coffre à ouvrir, dans lequel se trouve la récompense du jeu. Donc c'est un jeu de piste, un rallye très simple. Et nous avons disposé des panneaux dans la Bastide qui sont composés donc de la question à traiter. Et puis ensuite, en fonction des lieux où c'est disposé, d'une petite explication de nature mathématique. C'est-à-dire là, nous sommes devant la statue Fermat. En l'occurrence, la petite explication est liée au théorème de Pythagore, qui est quelque chose que nous avons présenté le plus simplement possible. Mais en même temps, nous mettons sur le panneau un petit commentaire lié au lieu lui-même, c'est-à-dire ça peut avoir un caractère historique, ça peut avoir un caractère architectural. Ici, nous sommes devant la statue, nous avons rappelé quelle était l'histoire de l'érection de cette statue, qui a été mise en place par le don qu'avait fait Despeyroux, un mathématicien du 19e siècle, l'Omagnol d'ailleurs. Puis la statue a été prise par les Allemands et réinstallée pendant la guerre, elle a été prise par les Allemands et réinstallée ensuite après-guerre, et la voilà. Donc je pense que le visiteur peut à la fois profiter des jeux, profiter des petits commentaires mathématiques, très simples encore une fois, et profiter, comme un touriste ordinaire, des explications sur le patrimoine de la commune. Voilà.
Semaine à rebondissement en France la semaine dernière avec l'annonce de nombreux plans sociaux, et vous avez entendu aussi les parachutes dorés qui ont fait scandale, puisque le gouvernement a donc mis en place un décret qui interdit les parachutes dorés pour les entreprises qui font des bénéfices. Une affaire de licenciement, une affaire de plan social qui a ému la France entière, c'est l'affaire de cette entreprise Eliez en Poitou-Charentes, plus précisément dans les Deux-Sèvres, une entreprise en redressement judiciaire qui aurait besoin de quelques 10 millions d'euros pour repartir de manière convenable et pouvoir enfin se remettre en route pour la voie commerciale. Une affaire prise en main par la présidente de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, qui a rencontré la ministre de l'économie. On retourne sur cette affaire-là, l'affaire de Eliez, une entreprise en difficulté de Poitou-Charentes.
Que se passe-t-il ? Il y a quand même un mystère. Pourquoi aujourd'hui le fonds d'investissement dit non ? Parce qu'il est dirigé par d'anciens cadres d'entreprises concurrentes, me disent les salariés. Parce qu'il y a un ami du pouvoir, M. Bolloré, qui a un projet de voiture électrique et qui ne veut pas de concurrence, me disent certains salariés. Est-ce vrai ? Si c'est vrai, c'est très grave.
Stratégiquement majeur, c'est qu'on n'y croit pas trop, mais bon, il faut bien se remonter le moral quand même.
Il faut nous aider à fond. Il faut qu'on soit solidaires tous ensemble.
C'est ma société, c'est mon emploi, donc je suis là aussi pour la défendre.
Avec cette manifestation, on arrivera peut-être à être entendu parce qu'on n'a pas été avant ou pas suffisamment, et notamment faire en sorte que l'entreprise ne soit pas démantelée, qu'on garde tous les emplois et non pas qu'on sépare l'entreprise par petits bouts avec tous les licenciements qu'il peut y avoir à la clé.
On termine par la politique, avec la politique régionale. Vous avez tous entendu la semaine dernière la nomination par l'UMP des têtes de liste aux prochaines élections régionales qui auront lieu l'année prochaine. La tête de liste n'est autre que la députée maire de Montauban, Brigitte Barège, qui a annoncé qu'elle lancerait une campagne prochainement. Les listes, c'est pas pour l'instant. Brigitte Barège qui nous en dit un peu plus sur sa nomination, enfin plutôt son élection par les militants. C'est une nouveauté pour la tête de liste aux prochaines élections régionales, tête de liste UMP. On écoute Brigitte Barège.
L'UMP a organisé des primaires, c'est tout à fait nouveau dans notre parti, pour désigner le chef de file qui partira au combat pour les régionales de l'année prochaine ou de l'année d'après, suivant qu'il y aura ou pas la réforme des institutions. Donc, c'est une démarche nouvelle chez nous qui mérite de donner la parole aux militants. J'ai dit que c'était une victoire contre l'appareil, quelquefois contre les notables. Je ne sais pas contre, mais disons que ça témoigne, le président de la République l'a dit lui-même, de la volonté du parti de rajeunissement, de renouvellement et de féminisation. Alors maintenant, tout reste à faire, bien sûr. Il faut organiser des équipes, il faut organiser une campagne avec un vrai projet alternatif. Je vais démarrer là très prochainement, faire le tour des départements comme je m'y étais engagée, rencontrer tout de même les élus, les cadres du mouvement, pour essayer de travailler d'abord sur le projet. On parlera des équipes dans quelques mois. C'est un peu trop tôt aujourd'hui.
Voilà, 7 jours d'actu, c'est fini pour cette semaine. Je vous remercie de l'avoir écouté avec attention. Bonne semaine à tous, à l'écoute des programmes de CFM.